Je vous propose qu'on reprenne la deuxième partie, deuxième table ronde. On va essayer d'illustrer à la fois la manière par laquelle des établissements ont pu engager un schéma directeur ou structurer une démarche autour du schéma directeur. Et puis nous aurons l'intervention de différentes personnes du ministère sur des aspects pour indiquer comment le ministère accompagne, impulse l'ensemble de cette politique. Et puis par ailleurs, nous aurons à la fois l'association des directeurs des ressources humaines et l'association APACHE qui apporteront leurs témoignages. Et plus que leurs témoignages, nous indiquerons de manière précise la manière dont ces deux réseaux participent et ont un rôle particulier dans la mise en place de cette politique. Donc peut-être... Voilà, je suis la dernière personne. Alors, peut-être pour commencer, Madame, indiquer la manière dont votre établissement s'est engagé dans la mise en place de ce schéma directeur tout récent. Voilà, je vous laisse introduire cela.
Alors, en fait, notre établissement, donc l'Université de Tours, l'Université François Rabelais de Tours, avait dans sa carte stratégique défini déjà un certain nombre d'axes stratégiques prioritaires en matière de handicap. Il y avait vraiment une volonté politique du président, donc vous avez entendu tout à l'heure Luc Vaillant, que la politique handicap de l'université soit vraiment un axe fort donc de son projet d'établissement. On a le fait d'ailleurs que, en tant que vice-présidente de plein exercice, je sois chargée du handicap, était tout à fait symbolique aussi de cette volonté. À partir de ces axes stratégiques qu'on avait dégagés, on a créé en fait des groupes de travail transversaux. On a beaucoup insisté ce matin sur la transversalité, c'est important. On a créé donc des groupes de travail, bien avant d'ailleurs qu'on parle de schéma directeur, sur les principaux objectifs, accueil, accompagnement des étudiants, insertion professionnelle des étudiants, intégration et accompagnement des personnels, communication, sensibilisation, information. Et en ce qui concerne leur composition, donc on a essayé vraiment d'associer... pas toute la communauté universitaire, mais des représentants en tout cas de celle-ci, c'est-à-dire qu'il y avait dans ces groupes de travail des représentants des services, des composantes, des services centraux, des services communs, des enseignants-chercheurs, des étudiants. Alors bien sûr, la mission handicap hein, qui à Tours est aussi dirigée par quelqu'un de très dynamique et bien sûr qui joue un rôle important, c'est Sébastien Boyer, qui est bien connu du réseau APACHE. Donc on a créé ces groupes de travail qui avaient pour objectif en fait de formuler des propositions. Donc ces groupes se sont réunis pendant un an et ont formulé un ensemble de propositions sur les objectifs qu'on avait définis. Et c'est sur la base donc de ces propositions, après évidemment des arbitrages, que l'on a été amené à rédiger le schéma handicap de l'établissement, donc qui est construit autour de 5 axes prioritaires, 5 objectifs, et qui décline donc toute une série d'actions, alors qui pour certaines étaient déjà en cours. On n'a pas attendu évidemment le schéma handicap pour en mener un certain nombre, mais qui pour d'autres sont nouvelles ou encore pour une troisième catégorie d'actions. Demande à être considérablement amplifiée dans les années qui viennent. Alors, une fois que ces groupes de travail ont eu rendu leurs propositions, la question, évidemment, c'était de savoir comment maintenir la mobilisation de tous ces acteurs sur la politique handicap. Alors, d'une part, on a parlé des référents ce matin. On a demandé la désignation de référents dans toutes les composantes, pas seulement de référents administratifs, mais, et c'était là la nouveauté, également de référents enseignants-chercheurs. Donc, toutes les composantes ont désigné des référents enseignants, ce qui est important puisque les enseignants ont vraiment un rôle à jouer dans le lien avec les équipes pédagogiques. Il leur faut essayer aussi de mobiliser les responsables de diplômes, les enseignants-chercheurs. C'est pas très facile. Je pense que là, c'est vraiment un point un petit peu sensible sur lequel il faut qu'on travaille beaucoup dans les prochaines années. On a demandé aussi aux services communs et aux services centraux de désigner aussi des référents. Donc, on a des référents handicap dans tous ces services, qu'il s'agisse de la direction de l'immobilier, de la direction de la communication, également des services, par exemple, communs de documentation, comme on en a parlé ce matin, bien sûr, de la direction des ressources humaines, etc. Donc, on a un réseau de référents alors qu'on essaye d'animer en les réunissant au moins une fois par an sur une journée, ce qui nous permet notamment de leur donner des informations, d'avoir un échange avec eux, qu'il y ait un échange entre eux aussi de bonnes pratiques, et puis qu'ils puissent nous faire remonter aussi un certain nombre de propositions. Et enfin, on a créé une instance de concertation autour du handicap qui, dans le prolongement en fait, des groupes de travail, réunit les pilotes des groupes de travail, les référents, des étudiants, un responsable du CLOUS, parce que c'est important de faire le lien, évidemment, avec le CLOUS également. Cette instance de concertation, on l'a réunie justement pour lui soumettre le schéma directeur handicap, et pour pouvoir en discuter donc avec notamment les pilotes des groupes de travail après que ce schéma ait été terminé et élaboré. Voilà, le schéma, on l'a soumis au conseil académique. Les prochaines étapes, ce sont le comité technique et le conseil d'administration de l'université.
Il me semble, madame, merci, il me semble que ce que vous indiquez là, c'est qu'à travers l'instance de concertation, ça joue un peu le rôle de dispositif de suivi et d'évaluation, peut-être. Enfin, ça, oui, préfigure cette fonction-là par rapport à la mise en place du schéma directeur.
Oui, ça permettra effectivement de revenir devant cette instance pour faire le point avec les membres de cette instance sur l'avancement, évidemment, des différentes actions du schéma directeur. Donc, c'est important. Je pense qu'il y a d'autres moyens aussi d'assurer, évidemment, le suivi. C'est aussi de revenir régulièrement devant les responsables administratifs, en réunion des responsables administratifs sur la mise en œuvre de la politique handicap de l'université, également en réunion des directeurs de composantes, un comité de pilotage politique, c'est important. Et puis, de toute façon, il faudra aussi que chaque année, on fasse un rapport sur l'exécution du schéma devant le conseil d'administration. Et je pense que même si ce n'est pas prévu par la loi, on le fera également en conseil académique.
Et puis peut-être le deuxième point, je me permets d'insister sur des points qui me paraissent intéressants. Le deuxième point que vous indiquez aussi, c'est comment ce schéma directeur a cherché à s'impulser sur à la fois les acteurs qui étaient, ou les personnes, les acteurs qui étaient déjà très engagés, et en même temps toute cette ressource qui est remobilisée, qui trouve sa place dans ce nouveau cadre, dans ce nouveau dispositif.
Oui, tout à fait. C'est vrai que la mobilisation qu'on a exercée avec la constitution de ces groupes de travail a été vraiment très importante. Et même si tout le monde maintenant n'a pas suivi nécessairement, on reste vraiment donc en contact permanent et régulier avec les pilotes déjà des groupes de travail, les principaux membres, ceux qui ont été les plus actifs et qu'on invite notamment dans le cadre de cette instance de concertation.
Très bien. Je me tourne vers vous, Madame Le Trong. Si vous avez la gentillesse d'exposer la manière dont s'est passée l'élaboration de ce schéma directeur.
Le schéma a été présenté au CA du 1er juillet 2013. Donc, très rapidement, l'an 1 du schéma, c'était sa construction. Je ne reviendrai pas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin sur l'indispensable soutien politique. C'est une véritable volonté qui vient de l'équipe, qui permet de l'équipe présidentielle, qui permet d'avancer. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus, ça a été dit très souvent ce matin. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que, comme dans toutes les universités, il se passe beaucoup de choses, partout. Tout le monde fait des choses. C'est un petit peu, quelqu'un a utilisé ce matin le mot de briques, des grandes briques, des petites briques, un petit peu partout. Et je pense que le schéma a été l'occasion de construire un mur, enfin peut-être pas un mur, mais quelque chose avec ces briques. Ça, c'est la deuxième chose. Je rajoute aussi, ça m'a frappé ce matin dans les échanges, qu'effectivement, tout le monde est très bienveillant. Enfin, je veux dire que la discussion autour du schéma n'avait que des adhésions au niveau de la discussion. C'est des choses qui ont été dites ce matin, mais je crois que c'est important de le redire. Et puis, ça aide évidemment beaucoup quand on commence à vouloir travailler concrètement sur, sur le schéma. La méthode est un peu différente, mais repose aussi sur la concertation. Donc, notre schéma pluriannuel comporte 4 volets qui sont peu ou prou toujours les mêmes, hein, la vie étudiante, la recherche et la formation, les ressources humaines et l'immobilier. Pour chacun de ces volets, nous avons un correspondant, un responsable, voilà, une victime avec laquelle on a travaillé, pour rédiger ensemble donc les 4 volets du schéma. On a utilisé une méthode assez classique. D'abord, un état des lieux. Ça nous a permis de voir justement qu'est-ce qu'on avait, le nombre de briques qu'on avait et à quoi elles ressemblaient. On a pu mettre en forme tout ce qui s'est fait. Évidemment, le schéma nous a permis de lisser certains écarts. Parce que dans certaines composantes, se faisait beaucoup de choses, dans d'autres un peu moins, de façon différente, pas avec les mêmes interlocuteurs. Et le schéma nous a véritablement permis de structurer ça et de lisser ces différences entre composantes. C'est-à-dire que là où il se faisait beaucoup de choses, eh ben, ça a aidé à lancer d'autres composantes qui étaient un peu moins actives. Donc, tout ça, c'est structuré dans le schéma. Ça, c'est l'an 1, c'est la rédaction du schéma, c'est sa mise en œuvre. Moi, je dirais que nous en sommes à l'an 2, puisque le schéma, pour nous, c'est 2013-2017, donc on est sur une année de fonctionnement bientôt. Et je voulais juste insister sur deux choses. D'abord, le schéma a fait parler du handicap, ou fait parler le handicap à l'université. Il se faisait plein de choses, mais ce n'était pas apparent. Ça a fait parler à l'interne parce que beaucoup de collègues qui jamais ne s'étaient préoccupés de cette affaire sont venus nous voir en disant ben tiens, vous faites ça, est-ce qu'on pourrait participer à tel groupe, est-ce que je pourrais participer à telle formation. Ça a été assez révélateur, c'est de faire surgir la mission et le rôle, la politique handicap à l'université. Ça, c'était la première chose, ça me paraît intéressant. La deuxième, c'est que ça a fait parler à l'externe aussi, puisque depuis le schéma, nous avons été sollicités par des organismes et des partenaires extérieurs. Alors, nous en avons déjà beaucoup qui sont associés à notre schéma, mais des partenaires comme l'association Les Papillons Blancs qui sont venus nous voir pour un projet de recherche-action. D'autres organismes comme les ESAT, hein, les centres d'aide par le travail au niveau local, sont venus nous voir pour organiser leur réunion annuelle à l'université. Voilà.
Parce qu'il y a une communication à l'externe du schéma directeur où les choses...
Alors, il y a une communication au sens communication du terme, la presse, voilà, la presse locale. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de retours. Et ça, ça m'a paru très intéressant.
Ça a donné une forme de visibilité, à la fois en interne comme en externe, de l'engagement de l'université sur la politique auprès des personnes handicapées.
Alors que c'était rien de fondamentalement nouveau dans les faits. Oui, mais c'est l'affichage et la lisibilité, à la fois pour tous les collègues, enseignants, administratifs de l'université qu'à l'externe. Puisque constamment, là, régulièrement, on a des appels et on fait grossir notre lot de partenaires. Et puis, la deuxième chose, par rapport à l'an 2 du schéma pluriannuel, et là, donc, je vais parler de ma position des vues, donc vraiment dans le concret du concret. Une fois passé l'enthousiasme de la rédaction et la joie de sortir le schéma, j'allais dire que c'est à ce moment-là que les réjouissances commencent. Parce que sur le plan des choses concrètes, quand on les met en œuvre, on découvre petit à petit non pas forcément des difficultés, mais des faits qu'on n'avait pas anticipés. Par exemple, donc, comme toutes les universités, nous avons mis en place un réseau de référents handicap. Donc, dans chaque composante, il y a un binôme administratif et enseignant. Ça, ça a été très bien, ça s'est très bien passé, ça a été très vite. Et pour
juste sur ce point, c'est des appels à candidature, à volontariat. Il y a des formes d'échange entre eux, peut-être de sensibilisation, de formation particulière, de mise en connaissance plus forte du schéma directeur, juste sur ce point-ci.
Nous avons justement, j'allais dire, mis en place une formation pour ces référents. Donc une formation, c'est un module d'une douzaine d'heures de formation que nous avons mis en place. Et justement, j'y ai pensé parce que on l'a affiché, ce module de formation. Et c'était 6-7 séances de 2 heures chacune. Et à la fin du premier module, hein, enfin des premières 2 heures, hein, on a eu des appels en disant ah ben tiens, vous avez fait ça, est-ce qu'on peut venir aussi? Parce que nous, on n'est pas référent, on est administratif, enseignant, mais ça m'intéresse, est-ce qu'on peut venir? Donc ça aussi, ça a été une vraie surprise. Donc jusque-là, on est dans le positif, hein, la mise en œuvre, ça marche très bien. Parmi les choses qui ont été décidées dans le cadre des référents handicap, il était prévu que les enseignants référents soient rémunérés, dédommagés tout le moins pour cette fonction. Donc il y a un forfait et des heures en fonction du nombre d'étudiants encadrés. Et cette année, donc, ont été édités les premiers relevés et il avait été convenu qu'ils soient financés par chaque composante, et c'est vrai qu'il y a eu quelques allers-retours de ces fiches de relevé d'heure entre la mission handicap et la composante, puisque la composante disait bah bon, mais c'est pas le handicap ça qui paye. Voilà, on oublie un petit peu les choses, donc maintenant c'est rentré dans l'ordre. Mais je dirais, on découvre au fur et à mesure, on apprend en marchant. Donc pour la formation, très bien, ça fonctionne bien. Pour les étudiants, par exemple, on découvre des questions nouvelles, en particulier ce qui concerne les stages des étudiants. Nous avons deux étudiants très lourdement handicapés qui sont accompagnés d'auxiliaires de vie. Ces auxiliaires de vie sont rémunérés par l'université pour le temps qu'ils passent à l'université. À partir du moment où ils quittent l'université, ils sont dans une entreprise, ça ne relèverait plus de l'université. Et ça a été extrêmement compliqué pour mes deux étudiants qui sont partis l'un 8 semaines, DUT, donc 8 semaines, et l'autre 4 semaines, un master 1, pour mettre en place un accompagnement, c'est-à-dire permettre à ces étudiants de continuer à aller sur leur lieu de stage avec leur auxiliaire. Et là, ça a été une véritable bagarre pour finir. L'université a décidé et accepté de continuer à prendre en charge les auxiliaires parce qu'on était limite de perdre le stage pour ces deux étudiants qui sont quand même très lourdement handicapés. Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, ils ne peuvent pas faire un mouvement, donc ils ont besoin à chaque seconde d'être accompagnés. Donc, compte tenu de l'urgence et n'ayons pas d'autres moyens, l'université a décidé de continuer à soutenir le traitement de ses auxiliaires. C'est quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait anticipé, sur quoi il va falloir retravailler avec les partenaires. Voilà, donc ça c'est une deuxième chose qu'on a découverte. Et puis, on a quelques réflexions à mener aussi sur l'exception handicap pour les droits d'auteur. Pour certains cours en particulier. Donc, nous avons une étudiante sourde profonde en licence je ne vais pas rentrer dans un discours de spécialiste, mais les sourds ont un fonctionnement mental qui nécessite un véritable travail de transmission. Pour eux, les mots ne se perçoivent pas de la même manière, n'ont pas le même sens. Donc, cette jeune fille bénéficie évidemment d'une codeuse qui code tous les cours. Elle a aussi une preneuse de notes. Et elle souhaiterait vivement disposer des cours des enseignants. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous disons que nous n'avons pas la totalité des cours. Et donc c'est une discussion, enfin c'est tout chaud là, hein, la semaine dernière et la semaine prochaine. Voilà, ça c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure.
Mais ce que vous indiquez, c'est les deux versants, c'est-à-dire effectivement lorsqu'on s'engage à travers un schéma directeur, donc il structure mieux, même s'il peut prendre appui sur l'existant, c'est qu'à la fois c'est révélateur de ressources, de choses que l'on ne voyait pas qui peuvent s'intégrer, de personnes qui souhaiteraient participer, etc. Donc on a d'un seul coup des énergies qui peuvent se révéler, des possibilités qu'on n'imaginait pas, des autres associations ou structures qui peuvent venir à ce moment-là renforcer la dynamique. Donc ça, c'est tout le côté réconfortant et qui vient consolider la mise en place du schéma directeur. Et bien sûr, l'autre versant, c'est que c'est un processus en faisant de révélation de choses qu'on ne pouvait pas anticiper avant de les faire.
C'est pas forcément du négatif.
C'est pas forcément du négatif,
c'est juste
exactement.
Que ça
exactement.
Révèle qu'il y a un schéma qui va structurer ce qui existe et il va s'enrichir, en fait. Voilà. Quand on fera le prochain... Quand on fera le prochain, on le fera peut-être différemment.
Mais ça nécessite du coup, dans la mise en œuvre du schéma, d'y avoir une attention particulière à ces éléments-là pour pouvoir les instruire, rester dans la philosophie qu'on cherche à développer à travers le schéma, absolument. Tout en essayant, autant que faire se peut, trouver des réponses à des situations qui n'auraient pas pu être imaginées avant de les avoir.
Bien sûr, et il faut les avoir expérimentées pour les améliorer. On est dans cette logique.
Très bien. Parfait, merci madame. Alors, je me tourne maintenant vers le ministère qui est représenté ici. Pardonnez-moi. Peut-être, madame de Rouff, indiquer la manière... c'est une question générique au ministère, mais vous y répondrez chacune, mesdames, de par votre position. La manière dont le ministère accompagne, appuie et qu'est-ce qu'il essaie d'une certaine manière d'impulser dans les appuis qu'il peut apporter aux établissements. Madame de Rouff, si vous voulez commencer.
Oui.
Je crois que ça marche.
Oui. Alors, la première chose pour appuyer cette politique en faveur du handicap, hein, c'est de rappeler, et depuis la loi de 2005, hein, nous insistons vraiment sur la priorité qui doit être apportée sur ce dossier. En tant qu'employeur public, on se doit de montrer l'exemple et malheureusement, nous sommes loin pour l'instant d'être exemplaires. En tout cas, si on se réfère au taux d'emploi, parce que vous le savez peut-être, hein, le taux d'emploi de l'enseignement supérieur est le plus faible de la fonction publique. Il était de 1,62 l'année dernière et pour l'année 2014, je n'ai pas encore toutes les réponses, mais il est de 1,86. Donc depuis 2010, ça progresse lentement, mais ça progresse. Mais on peut voir quand même qu'il y a une prise en compte de plus en plus large dans les établissements. Et ce que j'entends depuis ce matin le conforte aussi, le confirme aussi. Donc, priorité forte, mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut aider les établissements? Donc, on est dans une période transitoire, vous le savez, 2014-2015. Période transitoire, surtout au regard de la déclaration et de la contribution. Donc, pendant cette période transitoire, le ministère a souhaité faire un plan d'action handicap spécifique pour l'enseignement supérieur. Et ce plan d'action qui a été rédigé à partir des réflexions d'un groupe de travail qui a réuni des représentants des universités, des établissements d'enseignement supérieur, hein, DGS, DRH, correspondants handicap, des collègues aussi qui sont à mes côtés, là, de la DGCIP. Nous avons essayé de balayer tous les champs du handicap et d'apporter, bien évidemment, des précisions réglementaires, des précisions méthodologiques, mais de rappeler tous les domaines dans lesquels il fallait intervenir. Moi, je parle uniquement sur le plan des personnels, étant donné que je travaille à la DGRH. Vous avez là d'autres collègues qui parleront sur les autres aspects. Donc, on insiste auprès des établissements pour que eux-mêmes, donc dans le cadre de la rédaction du schéma directeur, bien, puissent élaborer un plan handicap. Pour élaborer ce plan handicap, il faut là aussi localement une volonté politique forte. Donc, c'est ce qui a été dit ce matin, volonté politique forte. Et cette volonté politique, elle doit être traduite dans un document. Donc le plan d'action, qui doit être lisible, qui doit être visible et qui doit comporter également des objectifs
en matière de taux d'emploi et de recrutement, puisque ce sont les deux indicateurs principaux par lesquels on rend compte de notre politique handicap. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de faire du chiffre uniquement, il s'agit d'améliorer l'intégration des personnes handicapées en agissant sur les conditions de travail, les aménagements, le maintien dans l'emploi. Donc le plan pluriannuel que vous avez reçu en fin de semaine dernière, je pense, revient sur toutes ces rubriques et vous donne une aide méthodologique. Donc on insiste également sur le fait que, pour nous à la DGRH, le correspondant handicap pour les personnels doit vraiment être attaché à la mission RH et doit voir tous les aspects de ce dossier, puisque c'est très varié. Il ne s'agit pas de recruter seulement, il s'agit de recenser. On parle beaucoup du recrutement, mais en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui deviennent handicapées au cours de leur carrière, 70%, et il y a moins de personnes qui le sont au moment du recrutement. Donc il faut faire du recrutement, mais il faut faire un travail de fond sur la sensibilisation, la formation, l'information. Et là, le travail que vous allez faire, ou que vous avez déjà fait, pour certains d'entre vous, pour élaborer le schéma directeur, effectivement, ça demande un travail en transversalité et en pluridisciplinarité. Et à cette occasion, c'est l'occasion, comme l'a dit aussi quelqu'un ce matin, eh bien de voir déjà tout ce qui est fait, de réunir tout ce qui est fait et de les mettre sous un même chapeau, je dirais, pour avoir une vue d'ensemble et ne pas perdre en cohérence et en efficacité. Voilà. Alors, donc le plan pluriannuel vous a été diffusé. Ça, c'est un appui, un guide méthodologique. Et également, nous allons mettre en place des actions de formation et de soutien pour les établissements, dont les premières auront lieu au cours du dernier trimestre. Donc, ces actions, elles seront décrites dans une convention que l'on entend passer avec le fonds très prochainement. On travaille actuellement avec le fonds sur l'élaboration de cette convention. Cette convention portera sur des actions de portée nationale, puisque l'objectif, c'est de permettre aux établissements d'avoir recours au FIPHFP, mais dans des circuits les plus simples possibles, pour que vous receviez les financements directement, sans avoir le circuit compliqué de l'ancienne convention, dont d'ailleurs j'ai constaté que certains établissements avaient préféré recourir directement à la plateforme plutôt que de passer par l'autre convention. Nos circuits étaient quand même un petit peu lourds. Et si j'en veux pour preuve, dans le cadre de notre convention, il y a eu 1 million d'euros sollicités par les établissements au titre du handicap et sur la plateforme, 2 200 000. Donc on voit qu'effectivement, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace pour les établissements d'avoir directement recours au FIPHFP. C'est pour cela que nous passerons une convention nationale. Et ces actions de portée nationale sont des actions de formation pour tous les acteurs RH, les DRH, les DGS, les correspondants handicap, les médecins, mais également aussi les responsables de patrimoine pour apporter une aide aussi sur tous les aspects amélioration de l'accessibilité et également pour les responsables d'achat. Parce que réaliser des achats auprès du secteur adapté ou protégé, c'est une autre manière de contribuer à l'intégration des personnes handicapées, même si on ne les emploie pas directement. Et en même temps, ces dépenses sont déductibles de la contribution et permettent de majorer le taux d'emploi. Donc on voulait donner aux responsables des achats toutes les informations utiles pour améliorer leurs résultats dans ce domaine. Voilà donc la manière dont nous souhaitons accompagner les établissements. Donc vous avez reçu le plan d'action. J'espère que ça vous sera une aide précieuse. Et puis, il y aura des formations sur les deux années de la convention. Et si vous avez également des aides, des suggestions, des besoins particuliers que vous souhaitez voir abordés au cours de ces formations, eh bien, on est tout à fait preneurs de vos besoins et de vos suggestions.
Merci, madame. Madame Corr, sur votre partie.
Alors donc, moi je suis plutôt en charge de la politique étudiante, l'accompagnement des étudiants. Et je dirais que si tous les axes du schéma directeur en soient pour que les priorités avancent, hein, il faut que les autres axes avancent. Et s'il y a bien un des axes qui illustre parfaitement cette nécessité d'articulation et cette nécessité d'accompagnement dans différents domaines, c'est l'accompagnement de l'étudiant. L'étudiant, il va avoir besoin d'être accompagné pour ses enseignements, bien sûr, pour l'accès au savoir. Ne l'oublions pas également l'accès à l'information, qui fait partie aussi des services qui doivent être accessibles en tous les sens du terme. Et puis, on va trouver aussi, on l'a entendu évoquer, un accompagnement vers l'insertion professionnelle, puisque c'est une mission également de l'université. Avant toute chose, ça a été évoqué plusieurs fois, bien sûr, il faut qu'il y ait un accompagnement spécifique, mais avant tout, le droit commun. Les missions de l'université, il y a des missions d'orientation, il y a des missions d'enseignement, il y a des missions d'insertion professionnelle. Et c'est l'articulation avec les spécificités de la mission handicap, la structure handicap, qui, elle, va pouvoir accompagner plus particulièrement sur les besoins spécifiques de l'étudiant. Mais les missions, ce sont celles des services de droit commun de l'université. Donc avant tout, c'est accentuer ces articulations avec d'autres services. Alors, il y a deux importances à articuler ça avec l'ensemble des services. Typiquement, si on voit actuellement qu'il y a eu un doublement du nombre d'étudiants handicapés, si on voit, et même si c'est vrai, il existe encore un biais important entre la fluidité du parcours d'un étudiant handicapé et la fluidité d'un parcours d'un étudiant, entre guillemets, dit valide, les freins et ces écarts sont très largement en train de diminuer. Il y a eu énormément de faits. Et typiquement, la politique étudiante, elle s'est faite naturellement en articulation. C'est l'équipe plurielle. La structure handicap, elle seule, ne peut pas agir seule pour l'enseignant. Elle ne peut pas agir sans le service médical. Elle ne peut pas agir non plus sans le département du patrimoine immobilier, sans le service du numérique, sans le service d'insertion professionnelle, ni le service d'orientation. C'est vraiment cette articulation qui a permis réellement aux structures handicap étudiantes de mettre en place énormément d'innovations et d'accompagnement qui maintenant, je dirais, mériterait d'être mutualisé. Alors, il y a énormément actuellement dans ce schéma directeur de points sensibles. Et là, je dirais que moi, je vais appuyer pour dire n'oublions pas l'axe étudiant. N'oublions pas l'axe étudiant. Il y a eu un doublement du nombre d'étudiants handicapés depuis 2007. Il faut savoir quand même, en moyenne, c'est 14% d'augmentation. Et ces deux dernières années, c'est 20% d'augmentation par an. Les structures handicap ont réussi ce challenge, je dirais, d'assumer non seulement qualitativement l'accompagnement, avec évidemment des points améliorés, mais d'assurer qualitativement cet accompagnement, mais quantitativement. On est parti, je veux dire, dans chaque université, voilà, d'un doublement. Est-ce qu'on a un doublement des modalités, des possibilités, etc. Donc, il y a vraiment un questionnement à se faire. Et si dans ce schéma directeur, il est vrai qu'il y a des points sensibles, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il va falloir continuer à assumer un nombre d'étudiants grandissant. Et on l'a évoqué également, des situations de handicap qui jusqu'alors n'arrivaient pas pour ces étudiants, justement n'arrivaient pas à être étudiants, et qui maintenant arrivent. L'accompagnement dans le scolaire, il est là, et ces étudiants arrivent. Donc non seulement il va falloir vraiment renforcer cet accompagnement, je dirais, quantitativement, mais sans oublier qualitativement. Et ça ne se fera que par l'articulation avec les différents services de l'université. En termes d'accompagnement, le ministère, effectivement, va essayer d'appuyer, d'une part, et ce, avec les partenaires, parce que de la même façon, on ne va pas pouvoir avoir une action seule avec les partenaires, que ce soit les établissements directement, les associations telles que l'association APACHE ou les associations d'usagers, essayer de mutualiser et de capitaliser tout ce que les missions handicap ont pu mettre en œuvre. De même, les missions handicap dans les universités, je dirais que tout ce qu'elles ont innové, tout ce qu'elles ont mutualisé, il faut que ce soit utilisé dans les autres axes de ce schéma directeur. Je dirais l'étudiant, il suit ses enseignements, il a donc accès à l'information et il va avoir des stages qui font partie intégrante de la formation. On a un devoir de mise en accessibilité de cette expérience professionnelle qu'est l'insertion pro. Et typiquement, ça va être des possibilités d'échange avec les services RH pour justement mutualiser cette expertise qui a été mise en œuvre, même si les modalités peuvent être différentes réellement lors d'une insertion professionnelle définitive, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de choses à échanger. Donc, un premier rôle, c'est d'aider à capitaliser, d'aider à mettre en évidence et à rendre lisibles les bonnes pratiques et d'essayer, évidemment, de les améliorer, de faire rencontrer les experts pour essayer d'accompagner. On parlait des situations de 10. Ça, c'est effectivement des situations qui se sont 10, dyslexie, dyspraxie, dysphasie. Toutes ces situations qui ont, on le sait, augmenté en termes de représentativité dans le secondaire et qui donc arrive en masse maintenant dans le supérieur, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus et clairement c'est un des axes. Alors, il y a des choses qui sont extrêmement transversales et notamment le numérique. Et typiquement, le numérique, il va toucher énormément de choses. D'abord, l'étudiant, pour suivre ses enseignements, il a besoin il a droit à l'accès au contenu pédagogique. Il a droit à cet accès au contenu pédagogique. Ça veut donc dire qu'effectivement, à ce moment où l'université utilise de plus en plus cet outil numérique pour mettre les cours en ligne, pour mettre en place des modalités d'enseignement qui vont de plus en plus utiliser des choses innovantes, attention, effectivement, je vais utiliser ma casquette d'enseignante, mais on a toujours tendance à innover, à mettre en place de nouvelles modalités pédagogiques pour rendre l'enseignement adapté aussi à la population des jeunes qui évoluent. Attention à toute cette prise en compte du handicap dans la mise en place de ces nouvelles modalités pédagogiques, des cours à distance. On parlait alors au ministère des MOOC, de la plateforme FUN. Il y a effectivement un accompagnement, un travail de réflexion au ministère qui va travailler sur cette prise en compte de l'accessibilité dans l'ensemble des services du numérique. Parce que dans tout ce qui va être mis en place en termes d'organisation d'une formation, de son déroulé, de la prise en compte de l'évaluation, si la prise en compte du handicap n'est pas faite en amont, on retournera à des situations dont on parlait précédemment, ce matin, et qui ne seront plus gérables compte tenu du nombre d'étudiants. C'est l'urgence, c'est effectivement le service, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais pompiers. Et ça ne pourra plus être faisable avec un nombre d'étudiants grandissant. Donc, je dirais, on ne pourra plus accompagner un étudiant handicapé si, dans les modalités d'enseignement, la prise en compte du handicap n'est pas faite à la base. Et là, effectivement, on travaille pour mettre en place un accompagnement au niveau des obligations d'accessibilité en termes du numérique. On travaille avec la mission du numérique de l'enseignement supérieur pour essayer d'élaborer des outils d'aide à la mise en place donc d'accessibilité systématique, que ce soit dans le cadre de l'information ou du contenu pédagogique. Alors j'ai parlé des formations, effectivement, les enseignants-chercheurs doivent être sensibilisés. Alors je dirais qu'ils sont plus sensibilisés quand effectivement ils se retrouvent face à une situation d'un étudiant dont les troubles, psy notamment, c'est effectivement aussi une population d'étudiants qui augmente à l'université, parce qu'effectivement quand on se retrouve face là, on peut plus faire appel au service handicap. Donc il faut aussi apprendre soi-même à adapter son enseignement à tous. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir. Alors, d'autant plus, je dirais que ça me permet de rebondir aussi sur le côté formation, et pas le côté formation, l'accessibilité de la formation, puisqu'elles doivent toutes l'être, mais sur les formations que tous les établissements, tous, ont mis en place, d'une façon ou d'une autre, sur, d'une part, la formation de professionnels, directement ou indirectement, à l'accessibilité. Et quand je dis accessibilité, c'est l'accessibilité du cadre bâti, l'accessibilité du numérique, l'accessibilité de l'outil pédagogique, etc. Il y a non seulement cette formation de professionnels à l'accessibilité, ou dans des formations autres, l'introduction de cette notion de handicap qui permettra d'intégrer ce réflexe de prise en compte du handicap, mais il y a également la formation, de nombreux établissements y participent à la formation de professionnels pour l'accompagnement du handicap. Et je dirais que ça, ne l'oublions pas, c'est un des axes, c'est bien l'axe de mise en lisibilité des formations et de la recherche. Alors oui, la recherche et donc les formations, puisqu'elles sont adossées à la recherche. C'est un axe très important, et pas seulement pour l'image de l'établissement, pas seulement pour sa participation citoyenne, mais je dirais directement aussi, ça peut être aussi une modalité pour l'université, j'allais dire, de former des professionnels qui viendront nourrir ses propres compétences, non seulement dans l'accompagnement des étudiants ou des personnels, mais également dans toute la mise en accessibilité. Donc cet axe, il est vraiment important. Alors, de la même façon, et ça, je dirais que c'est un petit peu comme l'ensemble des mesures qui sont menées au niveau du ministère d'accompagnement, c'est une ligne d'action du ministère qui s'intègre dans un cadre beaucoup plus général, qui est le comité interministériel du handicap. Le comité interministériel du handicap est donc un comité qui va prendre en compte l'ensemble du ministère, qui ont chacun leur feuille de route pour mettre en place une politique dans chacun des domaines. Donc, il y a évidemment le volet jeunesse, le volet emploi, le volet accessibilité en général, le volet recherche-gouvernance. Et effectivement, dans ce cadre-là, le ministère, à travers ses mesures, va accompagner la politique dans chacun de ces domaines. Donc, comme événement, il va y avoir à la fin de l'année le CNH, la Conférence nationale du handicap, qui va effectivement, je dirais, porter non seulement l'avancée des mesures, mais également projeter. Et là, on a besoin effectivement aussi des retours. C'est une autre façon. C'est des retours, des difficultés, des freins qui se présentent nouvellement, effectivement, qu'on ne peut pas forcément toujours anticiper pour essayer de développer de nouvelles mesures. un dernier accompagnement, parce que effectivement c'est aussi un aspect important et sensible. Le ministère travaille activement dans ce cadre interministériel également sur les mesures d'accessibilité, alors on va dire du cadre bâti, même si c'est le cadre bâti, mais tous les services numériques dans un ERP, un établissement recevant du public, qui permettent d'accéder aux services, puisque c'est ça l'ensemble de l'accessibilité au cadre bâti. Donc le ministère participe activement aux travaux menés, donc pilotés évidemment par le ministère de l'écologie et du développement durable et le ministère de l'habitation, la déléguée générale de l'accessibilité qui pilote ce groupe. Et donc nous participons à l'élaboration des textes qui vont venir donc compléter la loi de 2005 qui n'est pas là pour exempter les établissements d'une mise en accessibilité au 1er janvier 2015 mais qui va permettre justement à travers la mise en place d'un dispositif réglementaire qui va permettre aux établissements de s'engager dans des agendas d'accessibilité programmés qui vont dépendre en fonction des spécificités de chacun des établissements avec un plan qui peut aller de 3 à 9 ans. Ça dépendra effectivement des conditions, des facteurs que mettra en évidence l'établissement. C'est un plan, donc les établissements, donc c'est le protocole des ADAP, et l'entrée dans ce protocole des ADAP est quelque chose de volontaire de la part de l'établissement. Ça se fera directement auprès des préfets de département. Et à partir du moment où l'établissement s'engage, et ce, les textes réglementaires vont être publiés, l'ordonnance en juillet cette année, et donc décret arrêté en suivant, ça permettra donc aux établissements jusqu'au 31 décembre de cette année de s'engager déjà dans la volonté d'entrer dans ces ADAP pour un dépôt de l'ADAP, c'est-à-dire un dépôt de ce planning avant l'été 2015, en gros donc un an après la publication des textes, avec cet agenda, effectivement, de programmation, avec les priorités. Il ne s'agit pas de tout rendre accessible du jour au lendemain. Il s'agit de réfléchir également, en concertation avec le service des personnels et des étudiants, sur ce qui est le meilleur et le plus pertinent. Donc voilà, en ce qui concerne cet accompagnement accessibilité, qui va être donc accompagné de les travaux, effectivement, dans le cadre de la convention, avec des formations, et qui permettra donc aux établissements de s'engager dans ces travaux de façon tout à fait légale, c'est-à-dire que voilà, il y aura plus cette possibilité d'être attaqué en termes de plainte. Voilà, je ne parlerai pas l'accompagnement financier. L'accompagnement financier pour les étudiants reste effectivement ce qu'il a été cité ce matin, c'est-à-dire 7,5 millions par an qui est attribué en fonction effectivement des aides directement mise en place par les établissements et de la politique globale de l'établissement, et un accompagnement aussi financier dans le cadre de l'accessibilité du cadre bâti, auquel vont s'ajouter effectivement ce dont Mme Bonafou a parlé ce matin, c'est-à-dire des CPER.
Merci. Ce que je retiens, merci déjà de ces précisions, mesdames, qui permettent d'indiquer précisément la manière dont le ministère se mobilise pour accompagner les établissements. Ce que je retiens sur deux points sur lesquels vous nous alertez et en même temps sur lesquels le ministère réfléchit, c'est de dire effectivement on faire attention de ne pas être victime de son propre succès dans l'augmentation du nombre d'étudiants, parce que la réponse ça nécessite des moyens pour accompagner cette intégration de ces étudiants, d'autant plus si on essaie d'être plus pertinent dans la prise en compte de l'ensemble des handicaps, encore une autre question, et que du coup la réponse c'est pas simplement d'y mettre les moyens, toujours plus de moyens, mais c'est aussi d'avoir une façon de s'organiser pour prendre en charge qui nécessite cette fois-ci d'y travailler à plusieurs et donc de mobiliser d'une certaine manière l'ensemble des compétences, l'ensemble des personnels des universités pour pouvoir être eux-mêmes acteurs de cet effort collectif engagé. Et puis le deuxième point sur lequel vous alertez, me semble-t-il, enfin, en tout cas que j'ai retenu dans vos présentations, c'est de dire, bien évidemment, aujourd'hui, il faut être attentif à la manière dont chaque innovation que l'on peut engager prenne en amont. Alors, je confonds toujours amont et aval, mais là, ça doit marcher. Prennent en amont, je pourrais m'excuser, enfin, chacun ses petits troubles. Prennent en amont la question du handicap en général, parce qu'après, c'est extrêmement coûteux de revenir quand les choses sont mal posées. Madame Netter, peut-être sur votre partie, pouvez-vous indiquer des éléments complémentaires ?
Alors, moi, moi, j'ai un positionnement un peu différent de celui de mes collègues. D'une part, parce que j'appartiens à un service qui est transverse entre l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, je suis plutôt dans les articulations et les manques des politiques. Je suis là comme une conscience, si je puis dire, par rapport à ce qu'il faudrait impulser et enrichir dans les politiques qui se mettent en place. Je travaille notamment avec le défenseur des droits, et je vous rappelle que en matière le handicap peut être un des éléments de discrimination très fortement noté par le défenseur des droits. Je travaille aussi avec le réseau des médiateurs et avec Madame Sassier, la médiatrice nationale. Nous avons des liens très forts. Et donc, si vous voulez, en termes d'accompagnement et de vigilance, je m'inscris vraiment dans les articulations. Donc, j'étais très sensible. Alors, on a beaucoup parlé ce matin des contrats doctoraux. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on a mis en place, on a proposé à la direction générale de mettre en place ces contrats doctoraux. C'est que on s'est aperçu en 2011, quand ils ont été mis en place, qu'il y avait un décrochage finalement des étudiants au niveau licence master et que très peu ne s'engageaient vers le doctorat, dans le doctorat. Hein, je vous rappelle qu'ils étaient que 0,2% des doctorants en contrats doctoraux. Donc, c'est très, très peu. Donc, il fallait un symbole fort. On était dans l'ordre du symbolique. Hein, et je suis bien d'accord que maintenant, au bout de 4 ans, il faut certainement repenser le dispositif, mais c'était un symbole fort et ça le reste, c'est pour montrer aux étudiants qu'il fallait s'engager et qu'ils devaient s'engager, que tout était ouvert pour eux quand ils étaient en situation de handicap. Et parallèlement, c'était aussi une première marche pour l'emploi. Hein, et à un moment où finalement il y avait des difficultés recrutement, hein, maintenant on a beaucoup progressé, mais de recrutement d'enseignants-chercheurs en situation de handicap, c'était une façon de créer un vivier, certes, mais aussi de dire très symboliquement, ces jeunes bien formés au bon niveau, très naturellement, ils vont aller taper aux portes des universités et c'est tout à fait normal. Donc, je pense que dans ce cadre-là, vous voyez, l'action qui est celle du département que je dirige, c'est vraiment d'essayer d'enrichir les politiques. Et là, à contrario, vous êtes bien entendu des partenaires pour nous signaler, nous alerter. Je vais suivre de façon très proche ce qui se passe par rapport au schéma directeur pour voir s'il existe encore des verrous. De la même façon que avec la DGRH, on a été alerté sur certains logiciels qui ne permettait pas pour les enseignants-chercheurs de faire valoir, alors qu'ils avaient la possibilité de se présenter dans les campagnes de promotion, de faire valoir le fait qu'une partie, ils n'étaient pas en capacité, du fait de leur handicap, d'avoir l'exercice entier de leur fonction, mais qu'ils s'étaient plutôt concentrés sur telle fonction plutôt que telle autre. Et ça pouvait être une cause du fait que les dossiers ne soient pas examinés par les commission ad hoc. Et simplement, là aussi, on est dans la proposition d'enrichissement. Et maintenant, si vous regardez le logiciel en question, il a été amélioré, enrichi de cette façon-là. Donc, moi, si vous voulez, c'est vrai que je pense que on s'inscrit dans cet axe-là très nettement. Alors, On s'inscrit aussi, pour ce qui est de ma responsabilité, dans les articulations entre les domaines. C'est-à-dire que, par exemple, mes liens avec la DGRI font, donc de la Direction générale de la recherche, font que, bien entendu, je pense que je travaille avec le service de stratégie de la recherche. Donc, comment la politique de recherche peut venir enrichir les politiques mises en place dans les établissements. Et là, je rejoins complètement Fabienne en vous disant que dans ce volet recherche, on sera très attentif à la visibilité que vous donnerez à ces recherches, puisque au niveau du fameux comité interministériel du handicap, on s'est engagé, ministère, à rendre plus visibles toutes ces recherches sur le handicap. Et vous allez, j'espère, y participer. Et donc, de façon à ce que la société, puisse mieux les connaître, puisse mieux savoir qu'il y a des recherches et que finalement, vous êtes un des moteurs importants de cette société, de cette université citoyenne au service finalement des besoins aussi de la société. Voilà. Je crois que j'ai été trop longue.
Non, je vous en prie, madame. Non, c'était surtout précise, très longue. Il me semble que ça indique là, en vous entendant, mesdames, que le ministère cherche aussi à pouvoir être alimenté par les établissements, je ne vais pas dire des difficultés, mais en tout cas des situations ou des points à traiter ou des questionnements qui restent, de manière à enrichir la capacité d'abord à capitaliser, et en même temps enrichir la capacité du ministère de se mettre en appui des dynamiques impulsées par ces politiques. Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Oui, tout à fait, parce que c'est un point très important que vous soulevez là. Effectivement, au ministère, on essaye de vous apporter... Bon, déjà, bien sûr, on rappelle les priorités nationales, les orientations nationales, mais on est tout à fait intéressé d'avoir des remontées parce que, dans la mesure où on est là pour vous aider, pour vous accompagner, il est utile de savoir sur quel point précis vous avez besoin de précisions supplémentaires. Vous avez besoin de méthodologies supplémentaires. Si je prends le plan d'action, on a fait une fiche technique très très détaillée sur le recrutement par la voie contractuelle. Pourquoi on est allé, vous voyez, on est allé dans des points de détail très 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 très, très loin parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de questions sur ces points-là. Donc c'est tout à fait utile pour nous d'avoir ce retour et aussi d'avoir pas seulement des questions ou de signalements de difficultés, mais aussi avoir des retours d'expérience qui ont bien marché, plus ou moins bien marché, parce que lors de regroupements, on peut justement profiter de ces expériences réussies pour mutualiser les bonnes pratiques ou pour ensuite, lorsqu'on doit redonner d'autres recommandations, eh bien, on puisse se baser sur toutes ces expériences en tirant tout le profit nécessaire.
Très bien. Madame Coutant, je me tourne vers vous. Peut-être préciser, je ne sais pas si tout le monde connaît l'association APACHE, et puis indiquer, si vous le permettez, la manière dont APACHE, enfin, dont l'association accompagne cette mise en place de ces politiques et du schéma directeur.
D'accord. Alors, APACHE, je vais en dire quelques mots quand même, parce que contrairement à ce que vous dites, je pense que tout le monde ne connaît pas l'association. C'est une association qui est née il y a un peu plus d'une année, donc en avril 2013, sur une volonté exprimée de nombreux collègues de pouvoir se regrouper, se fédérer dans une structure qui leur permettent à la fois d'échanger, mais aussi d'être une force de proposition indépendante des établissements. APACHE est donc une association de professionnels dynamiques, c'est-à-dire très occupés, dont les membres actifs sont exclusivement des personnes physiques, travaillant dans l'accompagnement des étudiants handicapés à l'université. Nos membres actifs ne sont donc pas les établissements, mais des personnes physiques. À ce jour, nous avons à peu près une centaine de membres actifs qui travaillent dans 50 établissements français. Notre association, elle repose sur un besoin de partager, d'échanger et de structurer des bonnes pratiques dans des métiers qui sont somme toute assez neufs et qui sont développés pour la plupart au cours des 15 dernières années et montés en puissance après la loi 2005. Des métiers comme chargé d'accompagnement, chargé de mission un peu plus tard, et puis toutes les déclinaisons possibles de l'aspect de des spécialisations, comme les chargés d'adaptation, d'insertion professionnelle, d'orientation, et les référents handicap dont on risque de parler par la suite. Mais elle repose aussi sur un besoin de structurer nos pratiques et puis de les rendre plus cohérentes. Dans ce sens, des groupes de travail ont été constitués pour réfléchir ensemble et selon la volonté exprimée par l'ensemble des professionnels sur les questions de nos missions et de nos métiers, sur les questions des partenariats également, et puis sur des questions qui concernent des nouveaux défis, on en a parlé tout à l'heure, par exemple l'accompagnement des dyslexies. Nous sommes surtout attachés à faire en sorte que les étudiants handicapés restent l'un des éléments incontournables et non accessoires des politiques des établissements pour la formation, l'orientation, l'insertion professionnelle et la recherche. Je voudrais ici faire une parenthèse pour mettre en lumière le travail qui a été fait depuis les 10-15 dernières années par la DGCIP. Un travail de soutien, et pas seulement financier, surtout de coordination et d'animation, sans lequel il est fort à parier que le nombre d'étudiants handicapés dans nos universités n'aurait sans doute pas autant progressé, puisqu'il est passé en effet en 15 ans de 4000 étudiants à plus de 14000 de nos jours. Ce chiffre n'est cependant pas suffisant pour prétendre à une vraie participation sociale des personnes handicapées, mais c'est une progression, qui doit nous encourager et nous donner les moyens de former mieux et plus les étudiants handicapés dans les prochaines années. Vous l'avez compris, APACH a pour cœur de métier les étudiants handicapés et leur parcours dans l'enseignement supérieur. Je vais donc maintenant tenter d'aborder la question du schéma directeur. Sans trop dépasser les délimitations que nous nous sommes fixées nous-mêmes, il n'en demeure pas moins que certains de nos collègues...
Quand vous dites les limitations...
C'est-à-dire qu'APACH ne
pilote
concerne
pas directement
que les étudiants handicapés et pas les RH. Et je disais donc qu'il n'en demeure pas moins que 23%, selon une enquête interne à notre association, de nos collègues s'occupent aussi des personnels handicapés. Et que donc ces thématiques-là sont parfois présentes dans nos échanges.
Alors, parce que naturellement, il peut y avoir des passerelles et un intérêt à le faire.
Alors, il y a des intérêts à le faire. De toute façon, de fait, les passerelles, elles sont de l'existence même des schémas directeurs. Donc, le schéma directeur, il n'est pas... Vraiment, c'est pas vraiment une nouveauté pour les structures handicap, puisque c'est un outil qui figurait déjà dans la charte de 2012. Et il est vrai qu'un assez faible nombre d'établissements avaient fait le choix de formaliser cet outil. Et c'est bien dans le sens d'une démarche transversale au niveau de chaque établissement que les structures d'accompagnement ont travaillé ces dernières années. À notre niveau d'association nationale, il s'agit donc pas de coordonner pour aboutir à un objectif identique et uniforme des schémas directeurs, qui annulerait les spécificités et les choix de chaque établissement, mais de serrer les actions, de les rendre visibles et évaluables. Il s'agit là encore d'un échange de bonnes pratiques à notre niveau et de principes d'action, voire même de philosophie de travail, pour arriver à témoigner des différences de la richesse des parcours de chaque établissement. Alors, idéalement, j'aurais aimé aujourd'hui vous rendre compte d'informations de terrain remontant de notre réseau, mais les établissements qui sont les plus avancés ont exposé aujourd'hui, et je pense que faire une synthèse globale aujourd'hui, ce ne serait pas tellement constructif.
Je crois qu'il y a un document qui sort... présente un ensemble d'expériences engagées par les établissements qui est disponible à la sortie.
Oui, tout à fait. mais je veux quand même dire quelques mots sur ce qui ressort des échanges que nous avons entrepris au niveau de l'association APACH au cours des derniers mois. Le premier élément, c'est que les structures d'accueil et les missions handicap étudiants de nos universités ont à présent un recul suffisant pour faire état de leur expérience et s'appuyer sur les réseaux d'interlocuteurs et de partenaires qu'elles ont constitués. Ce qu'on appelle généralement les professionnels du handicap, les institutionnels, mais aussi les associatifs, les entreprises, etc. Ça, c'est un capital de compétences qui doit être valorisé et pris en considération comme une pierre d'angle pour la construction des schémas directeurs. C'est là que les professionnels compétents, en termes d'accompagnement, mais aussi d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi, se trouvent. Le second élément que je voulais mettre en lumière, c'est qu'il reste beaucoup à faire pour l'accompagnement des étudiants handicapés. Fabienne Corr le disait tout à l'heure. Un nombre encore trop peu important d'entre eux reste à un niveau d'études médiocre. Reste encore à un niveau médiocre et ils peuvent être accompagnés vers des niveaux plus élevés et plus valorisants pour eux. C'est notamment le sens d'un des chantiers qu'APACH a entamé avec l'ONICEP, entre autres, et qui permettra, je l'espère, de mieux informer les lycéens et leurs parents de l'ensemble des accompagnements que les étudiants handicapés peuvent bénéficier dans les établissements d'enseignement supérieur. La troisième chose dont je voulais vous parler, et pour faire bref, c'est qu'il semblera évident à tous que c'est surtout dans les cohortes de jeunes handicapés d'un niveau académique élevé que nous pourrons, à l'instar des entreprises, recruter à l'avenir non seulement les personnels administratifs, mais aussi les chercheurs et enseignants-chercheurs. Nous ne pouvons raisonnablement que renforcer les moyens d'accompagnement des étudiants handicapés si nous souhaitons retrouver ces personnes à un niveau Bac plus 5 ou Bac plus 8. De plus, nous le savons, ces enjeux de recrutement de personnel handicapé et le maintien dans l'emploi ont d'importants effets d'entraînement sur la sensibilisation au handicap dans l'ensemble de la communauté des établissements. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons à la fois en amont du L1, je réfléchis, c'était bien amont ou aval, et puis que nous devons travailler encore plus pour favoriser l'accès des jeunes handicapés vers le doctorat et les métiers de la recherche. Pour finir, je voudrais insister sur un dernier point. Si nous jouons tous le jeu du schéma directeur, c'est-à-dire si nous en faisons un outil utile et non un énième document figé, nous en ferons au moins le prétexte pour interroger de manière régulière et synchrone l'ensemble de la communauté des établissements. Le schéma directeur sera aussi un outil capable de séquencer nos actions, nous l'avons dit déjà ce matin. En marquant les étapes de nos actions, nous pourrons trouver le chemin moins long et moins pentu. Nous devons toutefois rester vigilants à ce que cette démarche-là soit bien celle de la complémentarité, de la transversalité et non celle de la subsidiarité. J'entends par là que nos obligations en matière d'accueil, d'accompagnement et d'accessibilité ne doivent pas servir de prétexte à demander à être exonérés des règles qui prévalent dans d'autres domaines. Ce serait non seulement contraire à l'esprit de la loi, mais ça aboutirait, je crois, à l'enrayement d'une dynamique dans laquelle tous les établissements sont lancés et engagés.
J'aurais mille questions à vous, poser. Malheureusement, le timing court. Peut-être juste, je me tourne vers les universités avant de passer à vous, monsieur. Paul, c'est que dans nos échanges, il me semble que vous avez noté à quel point il était utile d'avoir ce lieu, de cette association APACH, parce que c'était une vraie ressource d'une certaine manière, parce qu'il y a un lieu de professionnalisation, d'accompagnement professionnel. Et donc c'était effectivement une vraie ressource pour consolider la manière dont les établissements peuvent s'engager. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir.
Oui, enfin c'est... je reviens sur ce qui a été dit, effectivement, c'est la sphère métier, c'est-à-dire c'est l'émergence d'une nouvelle profession avec des compétences, encore une fois, qui existent, mais qu'on doit faire émerger. Et évidemment, ensemble, on est plus fort parce qu'on a tous des questions à poser, quel que soit l'état d'avancement de notre travail. C'est vrai que sur l'accompagnement des étudiants, je pense qu'on a déjà beaucoup progressé, on a fait énormément de choses. Je veux dire, on peut être assez content du travail qui a été fait, même si la tâche est immense. la transversalité, c'est une nouvelle étape. Peut-être que là aussi, du côté du bâti, des ressources humaines, on va avoir besoin aussi de cette dynamique à mettre en œuvre. Et même si Apache est très porté sur l'accompagnement étudiant, il me paraît important qu'elle aille au-delà aussi et qu'elle couvre l'ensemble du schéma dans ses objectifs.
C'est un endroit où on distribue beaucoup de conseils. Madame Delaunay, vous voulez peut-être réagir ?
Moi, je crois que de toute façon, c'est important. Je pense que les professionnels du handicap des établissements d'enseignement supérieur, des universités, se soient constitués en réseau. Il existe d'autres réseaux, le réseau des vice-présidents CVU, le réseau des vice-présidents CA, des vice-présidents relations internationales, le réseau des chargés de mission égalité diversité dont je fais partie aussi. Et je trouve que c'est très important parce que ça permet un échange, notamment d'expérience, un échange de pratiques. Ça permet aussi d'avoir une représentation, je pense, auprès des pouvoirs publics, d'être plus fort aussi, donc, et de se faire entendre. Je pense que Apache a vraiment apporté à la mission handicap de l'Université de Tours, cet apport, enfin cet appui important.
Très bien, merci. Monsieur, vous voulez dire un commentaire, madame ? Non. Monsieur Paul, si vous arrivez à avoir un micro, peut-être. Alors, plusieurs questions. Indiquer la manière dont une direction des ressources humaines arrive à s'inscrire dans ces politiques et la place qu'elle y occupe dans soit l'élaboration ou la mise en œuvre de ces schémas directeurs.
Bon, la DRH est impliquée naturellement dans ces politiques, alors peut-être moins sur le versant étudiant. Et aujourd'hui, la situation est extrêmement différente entre ce qui peut se pratiquer pour la prise en compte du handicap étudiant et de ce qui se fait au niveau de l'ensemble des personnels, ben au moins dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, on est impliqué, et je pense que l'implication va devenir de plus en plus forte. En fait, moi je suis depuis peu dans l'enseignement supérieur, et c'est vrai que le taux de personnel handicapé par rapport aux obligations est extrêmement faible. Ça s'explique aussi, je pense, parce que la contribution était en fait mutualisée au niveau du ministère, et aujourd'hui elle est redistribuée sur les établissements. Ça oblige les établissements à avoir une réflexion. Et globalement, enfin, si j'ai discuté avec mes collègues, si on restait sur le seul, je dirais, périmètre des personnels contractuels, on n'avait pas de contribution à apporter. Donc ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on travaille sur l'ensemble des axes pour répondre, je dirais, à la prise en compte du handicap au niveau global, au niveau national, que ce soit dans le recrutement des personnels handicapés, que ce soit dans les marchés, vous l'avez dit, que l'on peut passer avec les ateliers protégés ou les entreprises spécialisées, que ce soit aussi dans le reclassement de nos personnels en interne au sein des établissements. Et ça, je pense qu'on a un vrai travail qui doit être pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnels qu'on est amené à redéployer parce qu'ils présentent des contre-indications et souvent sont reconnus comme un travailleur handicapé, qu'on positionne sur d'autres postes, d'autres métiers, et je ne suis pas sûr qu'on les référence tous, enfin qu'on ait tous une méthode assez rigoureuse qui nous permet de ne pas laisser au bord du chemin, puisque globalement, on a quand même la majorité des personnels handicapés sont devenus handicapés au cours de leur carrière. Donc ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Et l'autre critère aussi, qui est en lien avec les étudiants, c'est qu'aujourd'hui, la contribution en fait apportée par les ressources qui accompagnent ces étudiants rentre dans le calcul des 6%. Donc c'est tout à fait intéressant, entre guillemets, si ça se développe, mais que globalement, nous puissions tous en tirer profit. Donc, et bien sûr, il y a un lien, alors ça a été fait tout à l'heure, si les étudiants sortent qualifiés, ils pourront alimenter nos propres recrutements. Moi, je veux revenir sur quelque chose qui me paraît fondamental, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la DRH a pour mission de trouver des compétences qui répondent aux besoins de responsables. Et le problème du handicap, je ne vais pas le poser de cette manière-là. Enfin, dans ma pratique professionnelle, et quand j'étais confronté à ces problématiques-là, je l'ai abordé sous l'aspect de la compétence. Tu as besoin, enfin, tu es responsable d'équipe, tu es responsable de service, tu as besoin de compétences, et ces compétences, elles doivent permettre de répondre à un certain nombre d'attendus. Dis-moi ce que tu veux, et moi, je te proposerai. Mais je te proposerai quelqu'un qui est une femme, un homme, un noir, un blanc, un handicapé. Peut-être on regardera plus le handicapé avec la médecine de prévention s'il n'y a pas de contre-indication, ou s'il y a des éléments à prendre en compte, comment on les prend, et s'il y a des équipements adaptés, comment on les adapte. Voilà, donc c'est vrai que j'ai tout un questionnement sur les relais handicap. Attention, il faut qu'on réponde aux besoins, et le besoin de l'ARH, c'est de dire, j'ai besoin d'un personnel trouve-moi un personnel adapté qui corresponde à mes besoins. Et l'autre question qui, à mon avis, est fondamentale, c'est sur le long terme. C'est-à-dire, on va recruter un personnel handicapé qui va avoir 25 ans, 30 ans, mais il faut en mesurer l'employabilité. Le risque qu'à un moment donné, pour une raison quelconque, il soit en difficulté, est-ce qu'on est en capacité ou est-ce que lui est en capacité de retrouver d'autres compétences et d'aller sur d'autres secteurs? Sinon, c'est des problématiques. Et on le voit bien dans les établissements, en fait, tout au moins, je n'ai pas une vision très... Mais dans le mien, tout au moins, par exemple, avec les personnels d'entretien, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vieillissement de ces populations-là. Elles ont des métiers qui sont... Enfin, un métier qui est extrêmement pénible, qui amène à des contre-indications. Elles n'ont pas, je dirais, des capacités ou des compétences qui permettent forcément de les positionner sur d'autres métiers, comme de la scolarité, de la gestion des ressources humaines, etc. Et on est souvent dans des vraies impasses. On en a même, parfois, on en arrive à dire, bah, écoutez, trouvez ce que vous voulez pour vous occuper, quoi. On n'a pas d'activité. Donc là, il faut être extrêmement vigilant. Et je faisais la remarque tout à l'heure, c'est-à-dire que si on regarde sur les 158 ou 157 recrutés, aujourd'hui, il y a 70% de catégorie C, 10% de catégorie A, et 20% de catégorie B. Ça, c'est une vraie question sur le long terme. C'est-à-dire, je pense qu'on a intérêt à avoir une typologie, entre guillemets, de nos personnels handicapés qui ressemble à notre structure d'emploi. Sinon, ça posera un problème sur le long terme. L'autre question, c'est qu'on est en train de lancer un plan, et on n'a pas forcément un plan de recrutement, on n'a pas forcément un turnover très important dans nos établissements. Enfin, ça dépend de la pyramide des âges, mais on a un certain nombre de départs. Mais on ne peut pas envisager, en regard de ces départs, que de recruter des personnels qui relèveraient du handicap. Donc voilà un peu mes remarques par rapport à votre question.
Là, vous avez une double casquette parce que vous êtes représentant de l'association des DRH, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comment l'association accompagne ou porte ou a un rôle particulier dans la mise en place de ces schémas directeurs?
L'association des DRH, alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé d'extraordinaire, puisque moi je suis arrivé à très peu de temps, je me suis inscrit à l'association, on envoie un mail, on a une réponse, il y a toujours un collègue qui vous répond, moi j'ai fait ça, enfin je l'ai fait d'ailleurs avant de venir à cette réunion, et c'est vrai que j'ai eu un certain nombre de réponses, mais surtout des universités qui avaient engagé des plans, quoi, en fait, qui avaient avancé. Ceux qui n'avaient pas avancé, je pense, m'ont pas répondu. Je pense qu'on a un rôle, nous, de partage de bonnes pratiques, c'est clair. Hein. C'est-à-dire qu'on est capable de diffuser entre nous des informations, d'échanger, de se passer les plans des uns et des autres. Et c'est vrai que là, de ce point de vue-là, je trouve que l'association fonctionne assez bien. Et c'est un atout pour, justement, partager les pratiques. Et après, le rôle qu'elle peut avoir, c'est, entre guillemets, aussi un rôle d'alerte. C'est-à-dire, si à un moment donné, si collectivement, nous rencontrons des difficultés pour mettre en place telle procédure ou telle mesure, je pense que là... vous avez intérêt au niveau du ministère de vous retourner, enfin, qu'on vous alerte et qu'on vous demande en fait de nous aider dans la résolution de ces problématiques qui vont exister certainement et qu'on va rencontrer. Donc, je dirais deux rôles, un rôle de partage d'expérience, un peu ce que vous faites au niveau Apache, et puis un rôle d'alerte vis-à-vis justement de l'institution globalement.
Si je peux me permettre une dernière question, vous êtes récemment à cette fonction, vous venez d'un autre secteur d'activité, donc vous avez cette expérience d'une réflexion, d'une avancée des questions dans d'autres types de situations professionnelles. Comment vous analysez ou quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui est commun, ce qui peut étonner
Je pense qu'on n'est pas assez centré. Enfin, moi, c'est ce qui m'a un peu interpellé, je l'ai dit dans mon intervention, on n'est pas assez centré sur le besoin. C'est-à-dire à quel besoin on veut répondre en termes de ressources humaines. Quel poste on veut combler. Et c'est vrai qu'il faut qu'on ait une analyse des postes sur lesquels on veut mettre des personnels handicapés. On ne peut pas les mettre partout. Il y a des postes qui sont sensibles, etc. Donc tout ça mène une réflexion. Mais il faut qu'on ait par rapport à ça un schéma. Et on peut avoir des actions collectives aussi vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis de Cap Emploi. Si vous allez voir Cap Emploi, enfin, alors, certes, je ne l'ai pas fait encore, mais je veux dire, moi, je l'avais fait dans mon métier précédent, dans mon poste précédent, vous allez voir Cap Emploi, ils vont vous trouver des personnels handicapés. Et ils sont d'autant plus attentifs qu'on sera une institution, un établissement supérieur. Parce que c'est vrai que quand vous discutez avec des personnels handicapés, ils vont rarement voir un employeur là, disant « j'ai un handicap ». Ils n'en parlent pas. Enfin, si c'est un employé privé, ils n'en parlent pas. Sauf si c'est vraiment affiché. Parce que s'ils en parlent, il y a peu de probabilité qu'ils soient recrutés. Donc, ils vont le dire après. Voilà. Donc là, je pense que Puis il y a un vrai rôle, je dirais, lié à notre mission de service public au global. Il faut qu'on contribue de la même façon que le font d'autres entreprises à cette prise en compte du handicap. Après, il faut travailler sur tous les leviers, parce qu'on ne peut pas avoir 6% des personnels handicapés. Enfin, relevant du handicap, ça c'est vrai que ce n'est pas possible, mais à travers les marchés protégés, à travers d'autres actions, les reclassements, etc., on doit arriver à...
Ce qui veut dire que ce que j'entends, monsieur, c'est que d'une certaine manière, l'intégration d'une politique handicap au niveau des ressources humaines, ce n'est pas quelque chose qui vous écarte du métier. Ce n'est pas quelque chose en plus de votre métier ou une contrainte particulière ou quelque chose qui, qui viendrait s'accoler ou s'adjoindre, mais en parallèle à votre pratique professionnelle. C'est plutôt comment, dans vos pratiques professionnelles et donc dans les compétences que vous pouvez développer et les différents dispositifs, comment arriver à avoir une solidité dans une manière d'appréhender globalement la question de l'emploi, de l'accompagnement professionnel, etc., etc., en prenant la question du handicap comme un angle d'attaque qui peut être autre.
Enfin, du point de vue de la RH, l'angle d'attaque va être le même. Là où il va être différent, c'est la communication qu'on va en faire vis-à-vis de l'ensemble de l'institution. C'est-à-dire comment, entre guillemets, on va vendre, nous, en disant, voilà, on est capable à la RH de vous trouver des personnes compétentes qui ont un handicap, et vous allez en être content et vous allez vouloir les garder. Et ça va mener dans vos services une autre façon de voir. Ce matin, il y avait un des présidents qui le disait en disant voilà, quand vous amenez un personnel handicapé qui est pris en charge et ça se passait bien, c'est extrêmement valorisant pour le collectif de travail. Donc ça, c'est vrai qu'après, il faut arriver à le vendre. Enfin, je veux dire, il faut communiquer, à vendre au sens... voilà. Mais il faut arriver à communiquer et à faire comprendre qu'il y a un intérêt commun à aller vers... Alors, c'est pas toujours l'enfève tranquille. Hein. Enfin, moi, ça m'est arrivé de dire d'aller voir dans des services où on n'arrivait, boutissait pas, d'aller dire à la personne, c'est fini, on a fait un essai pendant 3 mois et demi, on arrive au terme de la période d'essai, on ne vous recrute pas. Tout le monde est désespéré dans ces cas-là. Mais la personne, elle vous dit merci quand même à la fin, parce qu'elle vous dit, on a essayé. Voilà.
Vous vouliez apporter un complément ?
Oui, je voulais juste, par rapport à ce que vous veniez de dire, sur la recherche de compétences et les différences qu'il peut y avoir entre l'accompagnement, je dirais, étudiant et personnel ou... Et en fait, je dirais que l'accompagnement, en fait, dès le départ de l'étudiant, se fait de la même façon. L'évaluation, elle est faite sur les compétences. Il n'y a jamais de compétences qui ne sont pas évaluées parce que l'étudiant est en situation de handicap. Donc, je dirais, quand il va se présenter sur le marché de l'emploi, il se présentera avec la même évaluation des compétences que tout autre, avec de bonnes ou de mauvaises évaluations. On l'a dit, hein, un étudiant handicapé, voilà, il est comme les autres. Maintenant, le devoir de la structure handicap et la mobilisation qu'elle fait des partenaires, c'est de l'accompagner pour qu'il puisse développer ses compétences. Après, à lui de le développer. C'est lui qui est l'acteur. Donc, en termes de compétences, je dirais, voilà, c'est la question... Alors, je pense qu'il y a un des liens aussi qui est quand même peut-être à renforcer et à travailler en termes d'accompagnement de l'étudiant et d'accompagnement et de possibilités de recrutement aussi. C'est peut-être de renforcer les liens qui peuvent déjà avoir été tissés d'ailleurs, mais de les renforcer en ce qui concerne les stages. Maintenant, quand même, dans les formations, il y a systématiquement, quasiment systématiquement, des stages. Et on le sait quand même, effectivement, il y a une relativement bonne insertion dans le secteur économique, les industries. Après, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent intégrer le service public. Quand je dis le service public, c'est l'université, c'est le CNRS, c'est l'INRA. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont envie de continuer dans le service public. Et je pense que le travail des stages, c'est-à-dire la collaboration entre les RH et les structures handicap dans ce moment de mise en place des accompagnements pour le stage, qui est une condition d'exercice professionnel comme une autre, ça peut justement permettre à la fois de commencer à sensibiliser les équipes d'accueil sur des périodes un peu plus courtes, avec évidemment une anticipation importante en fonction des situations. Mais justement, à travers ça peut aussi, je dirais, inciter pour les étudiants à se présenter sur des postes. Voilà, je pense que c'est une façon en interne, avec les structures qui sont parallèles, on travaille à un moment sur le stage, sur vraiment un domaine qui est totalement recouvrant, puisqu'on va vraiment passer d'un exercice d'apprentissage avec justement, pour les missions handicap d'ailleurs, dans l'accompagnement de l'étudiant, une préparation à ce changement, c'est-à-dire l'accompagnement dans l'apprentissage n'est pas le même effectivement pour que l'accompagnement dans l'insertion professionnelle. On se doit d'avoir un accompagnement qui permette à 100% l'accessibilité au savoir pendant le
qui est nécessaire pour un bon apprentissage, pour les compétences. Mais après, je dirais, quand on se retrouve dans l'accompagnement pour le stage, on est exactement dans la même mission, je dirais, qui va rajouter plusieurs partenaires, mais qui peut permettre justement de tisser au fur et à mesure des liens pour peut-être plus de... et avec ces possibilités de stage qui sont d'ailleurs comptabilisées dans l'obligation d'emploi.
Madame Néter, vous souhaitiez...
Je voulais juste apporter une précision par rapport au reclassement, parce que je partage vos préoccupations et votre intérêt sur ces questions-là. J'anime un groupe sur ces questions de reclassement, hein, où d'ailleurs l'association des DRH fait partie prenante de cette réflexion. L'idée, effectivement, c'est de proposer au moins, j'allais dire, un guide de bonne pratique ou des recommandations qui permettent d'avancer. Parce que, effectivement, pour moi aussi, je pense que dans cette politique du handicap, il y a bien sûr le recrutement, il y a bien sûr l'accompagnement, mais il y a aussi toutes ces questions liées au reclassement, hein, avec... toutes les difficultés de reclassement que ça représente à l'échelle d'un établissement. Hein, ça avait été très fortement souligné dans le groupe. Parfois, il faut peut-être envisager, et je pense qu'il faudra sans doute l'aborder dans notre groupe, peut-être l'envisager dans le cadre d'un bassin d'emploi plus large pour trouver les meilleures possibilités de reclassement. Mais c'est vrai que pour moi, la politique de ressources humaines sur le handicap, ça passe par différents pôles. C'est un continuum entre le recrutement, les formations, l'accompagnement, la sensibilisation et ces questions de reclassement. Et je voulais juste dire que dans les préoccupations qui remontent par le biais du réseau des médiateurs, il y a ces questions liées à la santé et donc liées aux questions de retour à l'emploi après des congés maladie plus ou moins longs. Et il m'est arrivé de regarder, d'être saisie, hein, je l'ai repassé à mes collègues de la DGRH, mais d'être saisie sur des difficultés d'enseignants ayant une maladie grave, retour et ne retrouvant pas leur enseignement, par exemple, avec toutes les difficultés que ça représente au niveau des discriminations. Alors, j'avais juste un deuxième point, juste, je suis très intéressée aussi sur cette réflexion sur l'émergence des métiers, du métier lié au handicap. Je pense qu'il faudrait que nous le signalions à un moment où je sais que la DGRH s'interroge sur le répertoire des métiers. Hein, peut-être que c'est le moment de le signaler. En tout cas, moi, je me permettrais de le signaler pour que ça puisse rentrer dans leur réflexion.
Merci. Je vous propose. Alors, je vous en prie, madame.
Oui, effectivement, la DGRH fait même plus que s'interroger. Comme il y a le métier de conseiller mobilité carrière qui est déjà inscrit au répertoire des métiers, on compte inscrire le métier de correspondant handicap, mais là, je parle toujours pour les personnels, au répertoire des métiers. Parce que depuis la loi de 2005, il y avait déjà des correspondants handicap dans le passé, mais qui s'occupaient principalement d'aménagement de poste. Depuis la loi de 2005, on voit que les missions sont beaucoup plus variées, puisque si le correspondant handicap a bien le positionnement que l'on recommande, il intervient au niveau du recrutement, de l'aménagement de poste, du reclassement, du maintien dans l'emploi, mais également avec ses fonctions transversales. Il peut également intervenir sur les aspects budgétaires, hein, pour tout ce qui concerne le financement des actions, la sensibilisation, la formation, l'information et également quelque chose de très important aussi, c'est nouer des partenariats. Donc on voit que c'est un métier qui a des facettes très très variées et qui mérite effectivement d'être identifié comme tel.
Très bien, merci. Je vous propose, comme le temps file, d'avoir un temps d'échange, de questions, de remarques ou de témoignages. Monsieur, je vous en prie, c'est la gentillesse de vous présenter. On va prendre peut-être quelques questions et puis avoir une organisation des réponses.
Bonjour, monsieur Courriot, je suis chargé de mission handicap à l'université de Cergy-Pontoise. La question est justement plutôt pour madame De Groof à propos de la position justement des correspondants handicap au sein des DRH. Le rôle que vous présentez dans le plan qui est paru effectivement fin de semaine dernière, début de semaine, m'interpelle un petit peu parce qu'il donne une position politique très forte telle qu'il est présenté au sein des RH. Or, ma vision des choses fait que j'ai quand même l'impression qu'il y a besoin d'une vision qui dépasse largement le cadre RH. Les missions handicap, d'un point de vue général, ça a été évoqué, sur la prise en compte des étudiants, par exemple, on a vraiment réfléchi en termes de compétences. On travaille effectivement sur cette notion de compétences. Et quand on met en place des aménagements, on réfléchit sur qu'est-ce qui permet de valider exactement les mêmes compétences que pour un autre étudiant. On réfléchit vraiment en termes de compétences. Pour l'étudiant, voilà sur ce travail-là. On réfléchit sur l'insertion professionnelle. On est amené à travailler avec les étudiants pour réfléchir, voir avec eux sur comment ils vont se projeter dans le monde professionnel. Et on travaille déjà un petit peu quand même avec un certain nombre d'entreprises de temps en temps à comment l'étudiant va pouvoir s'insérer au sein d'une équipe. Là, on recoupe aussi des missions qui sont effectivement au sein des RH. Nos étudiants, au moment de les accueillir, on est obligé de réfléchir sur l'accessibilité du bâti. On est déjà actuellement, ça fait un certain nombre de temps qu'on travaille évidemment avec nos DPI. On est obligé de réfléchir aussi sur nos sites internet, quelle information on permet de signaler aux étudiants pour mieux accéder à nos bâtiments et quel type d'information on met. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de compétences que vous souhaitez voir développées par le côté RH qui, à mon avis, sont déjà très particulièrement développées dans un cadre qui, moi, je crois, ne se limite pas justement au RH. Le côté formation, quand un professionnel va avoir besoin de se reconvertir, il y a souvent en tout cas un cadre de formation qui peut être porté. Et la formation, c'est quand même des choses que nous, enseignants-chercheurs, fait un peu partie de notre métier quand même. Le volet sensibilisation au sein de nos formations, on est quand même un grand nombre d'universités à mettre en place des enseignements qui ont réfléchi à les futurs partenaires qui vont intervenir dans le marché de l'emploi, nos étudiants, on essaye de les former en leur donnant une meilleure connaissance des différents handicaps, justement pour qu'ils puissent mieux accueillir un collègue en situation de handicap et changer leur regard sur le handicap. Du coup, ça me gêne. Le fait qu'il y ait un référent handicap au sein des RH me paraît indispensable. Le fait qu'il y ait un travail commun au niveau de l'ensemble de l'université me paraît indispensable. C'est juste l'importance, en tout cas telle que c'est présenté dans le guide, enfin dans le plan que vous avez édité, c'est quand même écrit que c'est lui qui est le porteur central de la politique handicap de l'établissement. Moi, ça me gêne un peu, si vous pouvez réagir là-dessus.
Quand je dis porteur de la politique handicap de l'établissement, c'est bien RH. Là, je ne parle, et le plan ne parle que des personnels. On part d'un taux d'emploi très, très bas. Et si on veut vraiment progresser, je pense qu'il faut un correspondant handicap dédié à ce sujet et qui voit bien tous les aspects du dossier. Bien sûr qu'à des moments donnés, les actions se recouperont avec les responsables, les référents des étudiants. Vous parliez de l'accessibilité, les sites internet, etc. Je vais prendre un exemple, puisque autant s'inspirer des exemples qui marchent. Dans l'enseignement scolaire, il y a un moment donné un changement de DRH et quand elle est arrivée, elle a pris la décision de mettre un correspondant handicap à plein temps dans l'équipe RH sur ce sujet-là. Et bien, en un an et demi, elle a doublé le taux d'emploi. Voilà, parce qu'il faut quand même que la personne, si elle couvre à la fois les étudiants et les personnels, elle n'aura pas suffisamment de temps. Il faut voir aussi les moyens qu'on veut se donner pour progresser.
C'est à la fois organiser les moyens et organiser des compétences, à même de porter cette dimension RH, entre autres, et en même temps organiser les capacités à dialoguer entre les différents acteurs qui s'occupent de ça en interne. Très court, parce que sinon on aura, sans vouloir être désagréable.
Ça me paraît quand même important au niveau du plan d'essayer de réfléchir à comment le présenter, parce que je pense aux établissements qui sont un peu plus en retard sur la mise en place de leur politique handicap. Elles peuvent facilement dévier sur « je vais juste m'occuper de mon taux d'emploi, je vais juste m'occuper d'une approche purement budgétaire ». Et là, je crois qu'on passerait à côté d'un certain nombre de choses. C'est pour ça que ça me paraît important de signaler que ce correspondant RH s'occupe d'accord de la politique RH handicap. Il a besoin de travailler en collaboration avec sans doute une politique handicap qui est supérieure, plus globale à l'établissement, mais je pense que ça mériterait d'être écrit pour rappeler aux présidents éventuellement d'universités qui sont un peu moins, bon élève, qu'il n'y aura pas que l'abcès budgétaire à prendre en compte.
Merci, monsieur. Monsieur. Sans vouloir être désagréable, mais on est pris par le temps. Si vous avez la gentillesse d'avoir des questions précises
très court,
et donc courtes.
Je vous promets. Christophe Raymond de l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Nous échangeons justement avec M. Blondin pendant le déjeuner au sujet d'un point qui n'est pas au programme. Et donc, je souhaitais juste poser la question. Dans les schémas directeurs handicap des différents établissements représentés ici, alors plus particulièrement aux personnes qui participent à la table ronde, est-ce que vos établissements ont abordé la question de la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap, notamment dans le programme Erasmus+.
Mesdames, monsieur, si vous avez...
Oui, très rapidement, on n'a pas, on l'a pas décrit en tant que tel, mais c'est une question post-pose parce qu'on a déjà eu deux cas précis d'étudiantes qui souhaitaient se déplacer dans le cadre d'Erasmus. L'une d'entre elles, on a pu l'accompagner, l'autre non. Donc ça prouve qu'effectivement, on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Pour l'instant, non. Au cas par cas. 50% pour dans notre situation.
Madame Delaunay.
On a déjà accueilli des étudiants en situation de handicap, donc étrangers. Mais c'est vraiment une question sur laquelle il faut qu'on travaille. Et je pense que c'est d'ailleurs un des points faibles de notre schéma parce qu'on n'a pas vraiment inclus ce volet-là, la mobilité internationale.
Il me semble que ça peut être du coup l'occasion aussi d'échanger sur des pratiques d'autres universités à l'étranger sur la manière dont la question de l'intégration et de l'accompagnement des personnes handicapées.
Je peux rajouter juste quelque chose au terme de... Alors, quelque chose qui avait été très généraliste, mais qui pose un certain nombre de bases. Dans le guide de l'accompagnement de l'étudiant qui avait été élaboré par la CPU en collaboration avec le ministère, il y a une partie, effectivement, sur l'international. Alors, je dirais que bon, il y a des dispositifs. Il y a effectivement un accompagnement financier supplémentaire par rapport à. Il y a aussi des démarches à faire parce que voilà, l'étudiant il est acteur aussi de sa vie, donc il doit faire des démarches auprès de la MDPH. Les choses sont faites de telle façon que, en termes de l'AH, etc., il y a une conservation des aides. Mais il y a des choses à prévoir, c'est clair. Il y a à voir avec chaque établissement. En termes de départ à l'étranger, parce qu'effectivement, les modalités d'accompagnement ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il faut effectivement anticiper beaucoup. On est à chaque fois, je le rappelle, dans tout ce qui va être financier en termes d'accompagnement, c'est le surcoût par rapport à la situation de handicap. On est vraiment dans le surcoût par rapport à un déplacement et au droit commun. Alors, je dirais que je vais refaire appel à la transversalité. C'est pas forcément le métier de la structure handicap de s'occuper de la mobilité internationale. Voilà. Et justement, effectivement, donc il y a des réseaux, et je crois que c'est vraiment à la structure handicap, justement, d'apporter les spécificités, et par contre, effectivement, d'anticiper d'autant plus qu'elle connaît très bien les besoins de l'étudiant. Et ça, effectivement, la prise de contact en termes d'accompagnement individuel, en termes de conséquences de la situation de handicap, est certainement à être pris en compte par la structure handicap, et ce, en collaboration avec les services équivalents dans le pays à destination. Mais il y a déjà un certain nombre d'éléments et de liens qui sont mis en place dans le guide de l'accompagnement qui permettent après de rebondir. Puis vous êtes dans une université où il y a pas mal de réflexions, justement.
J'allais dire, je vais répondre un peu...
Rapidement
c'est un des services que l'université offre à tous ses étudiants. Donc par voie de conséquence aussi aux étudiants handicapés.
Madame...
Bonjour, je m'appelle Barbara Leland, je suis maître de conférence en linguistique anglaise à l'Université Paris-Sorbonne et je suis membre du groupe de travail handicap spécialisé dans le handicap auditif et je voulais informer l'assistance de deux initiatives. Il existe une plateforme de cours en ligne qui complète un enseignement en présentiel en langue des signes française et qui réunit les universités pour l'instant fondatrices. D'autres universités sont membres, mais les trois fondateurs sont Strasbourg, Clermont-Ferrand et Paris-Sorbonne. J'ai des plaquettes pour les personnes intéressées. Sur ces cours, sur cette plateforme, sont mutualisées par les différentes universités membres le diplôme de compétence en langue des signes française, le CAPES de LSF, qui existe depuis 2010, et plein de cours dédiés aux langues et cultures sourdes. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de renseignements, je peux vous donner les plaquettes, les mails, etc. Deuxième initiative, qui vient de, du presse, cette fois, Sorbonne Université. L'année prochaine va ouvrir une option à raison de 2 heures par semaine, ouverte aux étudiants et au personnel administratif, une formation en sténotypie, c'est-à-dire formation au surtitrage intégral en live de cours à l'université. C'est-à-dire qu'au départ, c'est fait pour rendre le savoir accessible aux étudiants sourds, mais par extension, ce serait utile aux étudiants étrangers et par extension à tous les étudiants, puisque ça sera là pour soulager les étudiants, leur mémoire à très court terme. Donc ça sert en fait à tous les étudiants. Le but de cette formation est long terme, sur le long terme, d'installer un nouveau métier, le métier de l'accessibilité, le métier de surtitreur. Et il y aurait des surtitreurs à l'université, comme il y a des administrateurs, responsables administratifs, des enseignants-chercheurs, etc. Donc là, c'est expérimental, c'est adossé sur les emplois étudiants. C'est pas sûr que ça existe dès l'année prochaine, parce qu'on est tributaire des candidatures étudiantes. Mais c'est aussi ouvert au personnel administratif désireux d'enrichir ses compétences professionnelles. Donc ça illustre un des aspects soulevés par Mme Corr et ça peut constituer une réponse à l'étudiante profonde, sourde profonde, que mentionnait Mme Le Trong. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous, Madame, de ces deux initiatives et de les avoir partagées. Une ou deux questions, si vous avez vraiment la gentillesse, je vous prie de m'en excuser. D'être synthétique.
Alors, une question, Madame de Grouve, quand vous parlez du référentiel, enfin du guide des métiers, est-ce que vous avez l'intention d'inclure dans ces métiers du handicap les personnels spécialisés, formés dans les missions handicap qui s'occupent des étudiants handicapés, qui pour le moment n'ont aucune reconnaissance ?
Comme je vous l'ai dit, moi je travaille à la DGRH, donc je ne m'occupe que des correspondants handicap qui s'occupent des personnels handicapés. Donc, pour les étudiants, je ne sais
alors,
pas.
Alors, juste un élément de réponse.
Fabienne.
Un élément de réponse, en fait, dans le cadre du CIH, hein, toujours, Comité interministériel du handicap, il y a vraiment des plans de relance actuellement qui sont là pour réfléchir aux formations liées aux métiers, que ce soit les métiers dans l'accessibilité, mais toujours c'est pareil, c'est l'accessibilité en général. Donc c'est très très vaste, et notamment justement, quand on va parler d'accessibilité, c'est accessibilité à tout service citoyen. Ça veut donc dire aussi les métiers permettant de, les formations qui vont permettre de former des professionnels à l'accompagnement des personnes handicapées, pas forcément à chaque fois des formations spécifiques, mais assez générales. Et justement, je dirais que là, j'en profite, hein, c'est vraiment des travaux qui sont menés dans le cadre du CIH et qui, je dirais, pour permettre de réaliser une synthèse entre l'adéquation des besoins des personnes handicapées, des besoins aussi des universités en termes de professionnels de l'accompagnement, mais de l'ensemble de la société. Parce que si on veut rendre accessible, il ne va pas y avoir que des techniques et des innovations, il va y avoir aussi des personnes accompagnant. Et là, effectivement, c'est à travers les schémas directeurs et une meilleure lisibilité des formations offertes par l'enseignement supérieur qu'on pourra réellement voir quels sont les besoins, quelles sont les offres, les besoins, les métiers spécifiques et les besoins en termes de nombre de professionnels et spécificités. Donc, je dirais que le schéma directeur, à travers cet axe de lisibilité, va permettre forcément de dire à certains établissements, de par leur spécificité de recherche et autres, vous
inciter, enfin, les inciter à développer des formations qui justement permettent de répondre à cette demande.
Vous vouliez apporter un complément, Mme
Juste Claire. Dire que sur ces types de personnel des universités qui travaillent dans l'accompagnement des étudiants handicapés et leurs spécificités, je ferai aussi remonter le besoin parce que dans la fiche métier, il faut prendre l'ensemble du spectre de cette politique. Donc je le ferai remonter moi.
Très bien, merci. Je vous propose de clore cette table ronde. Merci à vous d'y avoir participé. Merci.